Bonjour à tous. Alors d'abord, je me présente. Donc, Fischbar-Joël, j'habite à Soultz, c'est pas très loin, à côté de Guebwiller. Je fais partie de l'Assemblée évangélique de Guebwiller. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Ils sont restés à Guebwiller pour voir leurs copains-copines ce matin, à l'école du dimanche. Je travaille à Soultz dans l'entreprise Moller. J'ai mon collègue Quentin ici, Quentin Roqueton. Je salue également plusieurs d'entre vous. Je pense à la famille Maurer. Alors, je coordonne les dimanches après-midi dans la région de Guebwiller. On fait du foot. Donc, j'ai un petit groupe WhatsApp. On fait du foot. Ils viennent de temps en temps. Je vois des jeunes ici. J'ai vu des ballons aussi s'y circuler. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, on est des chrétiens de différentes églises du coin. Bienvenue à chacun. Alors ce matin, je voudrais vous apporter un message que j'ai déjà apporté à Guebwiller, mais aussi à Pulversheim. C'est notre assemblée où je prêche. C'est mon engagement principal, c'est la prédication. Et puis mon deuxième engagement, c'est au sein de l'église évangélique de Guebwiller. Je suis diacre évangélisation. Donc voilà, j'ai à cœur aussi que l'évangile puisse être partagé et que le témoignage de nos églises puisse resplendir la gloire de Dieu. Ah, c'est ce bouton-là, voilà. Alors, à l'église de Guebwiller, nous avons commencé une série de prédications sur les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Ce matin, je vous propose de redécouvrir ou de redécouvrir la première lettre, celle adressée à l'église d'Éphèse. Le livre de la Révélation commence au chapitre 1 avec une vision du Christ qu'a reçu Jean dans l'île de Patmos. Jésus mort et ressuscité est présenté dans sa puissance, sa majesté et sa gloire céleste. Il est assis sur le trône et règne sur toute la création. Il est le personnage principal du dernier livre de la Bible et de toute l'Écriture. Jésus-Christ est le premier et le centre de toutes choses. Au chapitre 2 et 3, Christ, l'autorité suprême, nom qui surpasse tout autre nom, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le souverain de l'univers, il pose un diagnostic. Il évalue 7 églises de la province d'Asie. Il évoque les points positifs et pour 5 d'entre elles, formule des reproches avec cette expression « Mais ce que j'ai contre toi ». Jésus-Christ, omniscient, donc qui sait tout, omniprésent, il est partout, omnipotent, sa puissance est sans limite, a une connaissance complète et intégrale des églises. Et ce matin aussi, il nous voit et il nous connaît. La première des 7 églises, donc, il évalue, est celle d'Éphèse. C'est l'église mère, en quelque sorte, puisque c'est la première fondée par l'apôtre Paul, et ensuite il a fondé les suivantes. C'est celle aussi qui se trouve le plus près de l'île de Patmos, où se trouve l'apôtre Jean en exil. Éphèse était au 1er siècle la ville la plus importante d'Asie mineure. Sa population était de 250 000 à 500 000 habitants. Éphèse aussi était la principale ville portuaire de la province d'Asie. Elle était située à une position stratégique à la jonction de 4 des routes romaines les plus importantes d'Asie mineure. De par sa situation et grâce à son port, la ville était un pôle de commerce prospère. Cette position a poussé Strabon, le géographe, à dire qu'Éphèse était le marché de l'Asie. Et puis, cette ville était aussi connue pour son célèbre temple, Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique. Cet édifice colossal était un sujet de grande fierté pour les habitants. Et chaque printemps, on y tenait un festival qui durait un mois en l'honneur de la déesse. Des milliers de prêtresses, guère plus que des prostituées rituelles, jouaient un rôle majeur dans le culte d'adoration d'Artémis. Alors nous voyons que l'idolâtrie et la prostitution étaient omniprésentes à Éphèse. Et c'est dans ce contexte qu'un groupe de chrétiens fidèles s'est formé au sein de cette culture païenne dans les années 50 après Jésus-Christ, suite au ministère de l'apôtre Paul. L'Apocalypse date des années 90 après Jésus-Christ. Alors la question ce matin, où en est l'église d'Éphèse, 40 ans après sa fondation, c'est ce que nous allons voir dans cette première lettre à l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse. Le titre que je vous propose ce matin, « L'église d'Éphèse, une église active qui s'est refroidie ». Pas pour moi l'objectif de culpabiliser l'église de Mulhouse, mais c'est simplement un encouragement, une exhortation qui nous concerne tous, parce que nous pouvons être en action tout en ayant perdu l'amour. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert à rien. » Donc on peut être une église très active, mais dépourvue de l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu. Lisons le passage biblique, Apocalypse 2, verset 1 à 7. « À l'ange de l'église d'Éphèse écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Avant de réprimander l'église d'Éphèse pour son manquement, le Seigneur loue les Éphésiens pour ce qu'ils font de bien. Alors nous aussi faisons de même. Parce que la critique est facile, mais nous devons apprendre à apprécier et à dire les points positifs à notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos frères et sœurs en Christ. Relevons trois points positifs que Jésus donne à cette église d'Éphèse. Premièrement, je connais ta conduite. Christ fait l'éloge des croyants d'Éphèse pour leur conduite ou leurs œuvres dans d'autres traductions, terme général qui résume tout ce qui suit. Et cette conduite se caractérise par la peine ou le travail. Le mot grec désigne un labeur qui conduit à transpirer, un effort acharné qui exige tout ce qu'une personne a à donner sur les plans physiques, mental et émotionnel. Donc les Éphésiens n'ont pas une mentalité de spectateurs, mais d'hommes et de femmes en action. Au sein des ténèbres païennes qui les entourent, ils évangélisent les âmes perdues, édifient les frères et sœurs et prennent soin de ceux qui sont dans le besoin. Autre terme qui vient, c'est la persévérance. Jésus les loue pour leur persévérance. On le retrouve deux fois, verset 2, « Je connais ta persévérance », et au verset 3, « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé ». Le mot grec pour « persévérance » dénote de la patience dans des circonstances éprouvantes. Oui, les Éphésiens acceptent courageusement les souffrances et les difficultés. Enfin, autre point positif aussi, c'est que les Éphésiens s'opposent vigoureusement aux fausses doctrines. Verset 2, tu ne peux pas supporter les méchants. Et verset 6, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Cette Église ne manque pas de discernement spirituel. Ils sont attentifs à l'enseignement donné et veillent pour que la saine doctrine soit préservée en leur sein. L'apôtre Paul avait d'ailleurs prévenu les anciens d'Éphèse 40 ans plus tôt, en leur disant ceci, chapitre 20, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, veillez donc. Et visiblement, ils ont retenu son sage avertissement. Ils se sont opposés notamment un groupe à l'enseignement pernicieux, les Nicolaïtes. On ne sait pas grand-chose d'eux. On voit aussi que la lettre à l'église à Pergame, ils sont dénoncés. Toujours est-il qu'il semble qu'ils abusaient de la liberté chrétienne en menant une vie caractérisée par une indulgence outrancière. Cela implique des tentations sensuelles qui conduisaient à la débauche ou à la consommation d'aliments sacrifiés aux idoles. Ils sont une occasion de chute pour les chrétiens d'Éphèse qui baignent dans une telle culture de prostitution et d'idolâtrie. L'apôtre Paul avait dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Et les Nicolaïtes, eux, disent « Tout m'est permis, point barre, tout m'est permis. » Et ils abusent de la grâce de Dieu. Voilà, donc, des éloges, mais, il y a un mais. Après ces éloges, il y a un mais. Vous avez soutenu des ministères à travers vos dons, c'est bien, mais. Vous servez dans le groupe de louanges, c'est bien, mais. Vous assurez l'entretien des locaux de l'Église, c'est bien, mais. Vous prêchez la parole de Dieu, c'est bien, mais. Vous n'êtes pas laissé séduire par les fausses doctrines, c'est bien, mais. Mais quoi ? Verset 4, « J'ai cependant un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Le Seigneur ne dit pas « tu as perdu ton premier amour, mais tu as abandonné ton premier amour. » Et la différence entre les deux est majeure, parce que perdre signifie égarer involontairement, or l'abandon est volontaire. Mais avant l'abandon du premier amour, le Seigneur parle au cœur des chrétiens par son esprit. Mais malheureusement, beaucoup ont étouffé la voix de Dieu pour vivre à leur guise. Inévitablement, l'amour a décliné. Il s'est refroidi au point de disparaître. L'Église continue à fonctionner. Ses activités se poursuivent, mais l'ardeur de l'amour n'est plus présente. Que Dieu nous garde de cela. Alors la question est aussi, mais de quel genre d'amour il fait défaut l'Église d'Éphèse ? Le texte ne le dit pas directement. Mais nous avons trois possibilités, l'amour pour Dieu, l'amour envers les frères et sœurs et l'amour envers notre prochain. Bien sûr, le fondement, c'est l'amour de Dieu. Jésus a résumé le plus grand commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu 22, verset 37. Et saint Augustin l'a dit avec ses propres mots, « La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. » Peut-être avez-vous abandonné votre amour pour Dieu. Vous n'avez peut-être plus d'appétit et de soif pour sa présence. Vous ne lisez peut-être plus la Bible et peut-être elle ne vous parle plus. Votre zèle décline et votre vie spirituelle est en chute libre. Quelque chose ne va pas. Mais quoi ? Une petite histoire pour nous aider à comprendre peut-être le problème. Un petit garçon avait pris l'habitude de venir très souvent à la porte du bureau de son papa pour lui demander telle ou telle chose. Il avait toujours une demande à faire. Un jour, les petits coups répétés se firent entendre à la porte. « Entre !» cria papa. Comme l'enfant restait silencieux au milieu de la pièce, après être entré, il lui demanda « Eh bien, dis-moi, parle, qu'est-ce que tu veux ?»« Oh, rien !»« Comment rien ? Allons, n'aie pas peur de me dire ce que tu es venu chercher. »« Mais rien, papa !» Je voudrais seulement rester avec toi dans ton bureau. Je ne dirai rien, je ne ferai pas de bruit. Mais j'aimerais tant rester avec toi dans ton bureau. T'es d'accord, papa ? Ému d'une telle demande, le père donna immédiatement la permission. Le petit garçon s'installa dans le coin du bureau avec son jouet, tout en veillant à ne pas déranger son papa. Le père fut heureux de sentir que son enfant venait le trouver et rester à ses côtés, même quand il n'avait pas à formuler de demande particulière. Peut-être que nous aussi nous ressemblons à ce petit garçon quand nous allons voir notre Papa Céleste. D'habitude, nous allons le voir pour lui demander quelque chose. Nous avons besoin de son aide pour bien assumer notre engagement à l'Église, par exemple. Et le reste du temps, qu'en est-il ? Venons-nous à Dieu uniquement lorsque nous avons un besoin, ou bien savons-nous le rencontrer juste pour être avec lui? Dans notre petite histoire, le cœur du père a été touché de voir que son enfant voulait sa compagnie sans aucune autre raison. Le psaume 16, verset 11, nous dit « Heureux l'homme qui sait jouir de la présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Alors, est-ce que je viens uniquement à Jésus parce que je dois faire quelque chose pour lui, ou bien je sais venir à Jésus juste pour être avec lui? La différence est grande. J'ai remarqué dans ma vie que le fait d'être parfois simplement avec Jésus est quelque chose de beaucoup plus vivifiant et renouvelant intérieurement. L'amour de Dieu, puisse cet amour brûler dans nos cœurs, la joie d'être avec lui, pour qui il est. Deuxième piste de l'amour, qui fait deux fois l'église d'Éphèse, l'amour envers les frères et sœurs en Christ. Certains théologiens pensent qu'il s'agit avant tout de cet amour-là qui est visé dans la lettre à l'église d'Éphèse. J'en cite un qui dit ceci, « Il semble probable que le désir d'un enseignement correct et des actions qui en résultent, c'est-à-dire l'exclusion de tous les imposteurs, les nicolaïtes, ait créé un climat de suspicion dans lequel l'amour fraternel ne pouvait pas subsister. » La Bible nous invite à un amour tout particulier entre croyants. Galates 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Nous avons à Guébuller abordé justement dans l'année passée une série de prédications sur l'expression « les uns les autres », précédée d'un commandement qui nous invite à vivre concrètement cet amour fraternel. En voici une liste non exhaustive. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Édifiez-vous les uns les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Pardonnez-vous les uns aux autres. Consolez-vous les uns les autres. Dites la vérité les uns aux autres. Soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Supportez-vous, priez, exercez l'hospitalité, pardon. Saluez-vous, exhortez-vous, supportez-vous. Il y en a encore d'autres, mais nous voyons que la parole de Dieu, elle est riche en recommandations pour vivre l'amour fraternel au sein de l'Église. Donc, l'amour envers Dieu, l'amour entre frères et sœurs. Et puis, la troisième piste de cet amour qui manque peut-être à l'Église d'Éphèse, c'est l'amour envers le prochain. Alors, une histoire, parce qu'on aime bien les histoires, elles sont parlantes, les histoires. Jésus est le spécialiste des histoires. Un matin de très bonne heure, trois ados, je ne sais pas si c'était trois là, j'ai pris une photo au pif, avaient résolu de jouer un vilain tour au pasteur de leur village. Donc ne faites pas ce tour-là à Matthieu. Ils montèrent sur son toit et commencèrent à enlever les tuiles. Réveillé par le bruit, le pieux vieillard, donc ce n'est pas Matthieu, sortit et constata les dégâts, bien qu'il fût intérieurement en colère. Il décida de suivre l'exemple de son maître. Il rentra et dit à sa femme, encore couchée, « Chérie, lève-toi, nous devons accueillir des ouvriers. Prépare-leur un bon petit déjeuner. » Pendant que les gamins continuaient leur œuvre de démolition au-dessus, elle prépara un copieux repas. L'homme sortit et leur cria, « Vous avez bien travaillé et vous devez avoir faim. Venez donc manger. » Ils trouvèrent cela drôle, descendirent du toit et se mirent à table. Le vieillard enleva son chapeau, joignit ses mains et se mit à prier. Il pria avec amour pour ces jeunes gens, de sorte que leur conscience s'éveilla et ils eurent soudain honte de leurs mauvaises actions. Après le repas, ils remontèrent sur le toit et remirent les tuiles en place. Voilà un amour surnaturel qui fait une différence. Le feu de l'amour qui a brûlé dans le cœur de ce pasteur a marqué les trois jeunes rebelles. Ils n'étaient plus tout à fait les mêmes après cette rencontre particulière. Quelqu'un a dit, là où il n'y a pas d'amour, semez de l'amour et vous verrez l'amour se produire. Puis nous sommes appelés à manifester un amour hors du commun qui fera dire à ceux qui nous entourent, ils ont une flamme d'amour qui brûle dans leur cœur. J'aimerais qu'il en soit de même pour moi. C'est l'amour de Christ. Chez les Éphésiens, malheureusement, elle s'était éteinte. Ils ont sombré dans l'indifférence. François Mauriac a dit, le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, beaucoup d'autres mourront de froid. Alors, comment être un témoin de Christ? Eh bien, en étant rempli de l'amour débordant du Seigneur. Et c'est cela l'évangélisation par excellence. Mais nous pouvons également être de ces témoins avec ce feu du Seigneur dans nos cœurs. Comme je suis diacre évangélisation à Guépuilaire, je vous partage certaines actions de témoignage d'amour que nous avons fait envers les gens de la région de Guépuilaire en 2022. Alors, voilà un premier, c'est l'action sociale des boîtes à chaussures à destination des gens les plus démunis. C'est une petite boîte où on peut mettre quelque chose de chaud, quelque chose de bon, un loisir, un produit de beauté et un mot d'amitié. Voilà, une façon d'aimer nos prochains. Une deuxième façon d'aimer, c'est de distribuer des traités. Un bon moyen pour toucher le plus grand nombre dans notre région. Nous donnons l'occasion à un maximum de personnes de lire en peu de temps un résumé merveilleux du message de l'Évangile. Et actuellement, nous distribuons ce traité-là, la plus grande histoire de tous les temps. C'est bien sûr l'histoire de l'amour de Christ. Troisième manière que nous utilisons pour témoigner, c'est le témoignage minute. C'est un outil adapté à ceux qui aiment le contact direct avec les gens pour partager leur foi. Alors l'entrée en matière se fait ainsi. On va dans la rue. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Si dit oui, vous demandez la question assez personnelle, mais sans être gêné. Quel est pour vous le plus beau jour de votre vie? Alors, ils réfléchissent et peut-être ils répondent. Vous les écoutez. Et ensuite, vous leur demandez, est-ce que je peux également vous dire quel est le plus beau jour de ma vie? Évidemment, vous leur partagez le moment où vous avez rencontré Jésus-Christ. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour une formation témoignage minute, nous avons un frère spécialiste dans l'évangélisation, il s'appelle Marc Reiner, il peut venir et vous apporter une formation. Il le fera avec joie. Autre manière d'évangéliser, la fête de Noël. Durant toute l'année, nous cultivons des relations avec des non-chrétiens, des amis, des voisins. Mais comment aller plus loin? Eh bien, une possibilité, c'est d'organiser une fête de Noël. Et nous avons eu la joie, en 2022, fin d'année, d'en faire une un dimanche après-midi, spécialement envers, à destination des gens de l'extérieur. Une vingtaine de personnes étaient présentes. Ça, c'est réjouissant. On prie pour que Dieu continue son œuvre dans les cœurs. Donc, aimons et témoignons. Aimons et témoignons. Mais peut-être que ce matin, notre flamme ou ta flamme est éteinte, comme celle de l'église d'Éphèse 40 ans après sa fondation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le grenier de ma maison, j'ai découvert une poutre rongée par des insectes, les capricornes appelés aussi le cancer du bois. Si je ne fais rien, je risque un jour de voir ma charpente s'écrouler et mon toit avec. Alors j'ai recouvert mes poutres avec un produit adapté, le traitement insecticide fongicide. Je n'ai pas dû chercher bien loin, je travaille chez Moller, on le fabrique dans notre entreprise. C'est un produit curatif et préventif qui permet un traitement efficace du bois. Alors l'église d'Éphèse, je le suis, elle a besoin d'un traitement efficace pour retrouver l'amour perdu. Et Jésus en donne trois clés au verset 5. Verset 5, « Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. » Rappelle-toi, change et reviens. Trois verbes clés qui se trouvent dans cet appel de Jésus. Parcourons-les rapidement. Rappelle-toi d'où tu es tombé. La première étape, c'est une étape importante pour revenir au premier amour qu'on avait pour Dieu. C'est une saine introspection. C'est un examen de soi où l'on plonge dans notre passé pour se souvenir de l'amour et du zèle qui nous animait pour Dieu au début. Et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à réaliser ce travail. Alors, demandons à Dieu et à son Esprit de se révéler à nous pour que nous puissions voir l'état de notre cœur. Première étape nécessaire pour un vrai changement. Deuxième mot-clé, rappelle-toi, c'est « change ». Change, ou dans d'autres traductions, « repens-toi », c'est la repentance. C'est vrai que la repentance, elle va au-delà du regret. C'est un changement d'attitude et de mentalité. C'est reconnaître là où on l'a chuté, demander pardon à Dieu et décider de marcher dans une nouvelle direction. C'est faire demi-tour. Un bel exemple, c'est bien sûr celui de l'histoire du fils cadet dans la parabole de Jésus en Luc 15. Il est rentré en lui-même et puis, après s'être examiné, il est revenu vers son père et il a demandé pardon. Il n'a pas seulement analysé sa situation, mais il a mis sa résolution à exécution et les bras du Père étaient grand ouverts pour l'accueillir. Enfin, reviens, pratique tes premières œuvres. Et c'est vrai qu'il nous faut apprendre à reprendre parfois des bonnes habitudes de vie. Peut-être votre vie est trop remplie et que vous n'avez plus de temps ou d'énergie pour être disponible à l'écoute de Dieu. La question peut-être se pose alors, qu'est-ce que je dois laisser tomber pour être disponible pour lui ? Peut-être que mon défi est de me discipliner davantage. Peut-être que je dois planifier certains objectifs dans ma vie et être concret. Qu'en est-il de ma lecture et ma méditation de la Bible, de ma vie de prière, de mon témoignage, de ma manière d'aimer mes frères et sœurs et ceux qui m'entourent ? Ma prière, que l'esprit de sagesse nous conduise et nous donne sa force pour aimer le Seigneur de tout notre cœur. Voici quelques questions qui peuvent nous aider à nous examiner. C'est le puritain Thomas Vincent qui les a citées. Vous pensez souvent à votre nourriture, mais combien de fois vos pensées se nourrissent-elles du Christ ? Vous pensez souvent à votre habillement, mais combien de fois pensez-vous au manteau de justice que nous avons revêtu en Christ ? Vous parlez volontiers des actualités et des faits divers, mais combien de fois parlez-vous du Christ ? Oui, nous sommes appelés à aimer le Seigneur. Et je vous invite à terminer ce message par un petit temps de recueillement pour que nous puissions examiner dans notre cœur quelle est la température de notre amour pour Dieu, pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont au dehors et qui ne le connaissent pas. Peut-être avons-nous besoin de nous rappeler comment nous étions bouillants pour lui. Alors, demandons au Seigneur de réchauffer notre cœur pour lui, et que cet amour puisse brûler et puisse nous animer. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous as tant aimés. Et en retour, nous voulons nous aussi t'aimer. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que nos cœurs soient animés de ton amour. Cet amour que nous ne pouvons pas produire, qui n'est pas de nous-mêmes, mais qui vient de toi. Merci, Seigneur, parce que dans ta présence, nous avons cette joie de recevoir cet amour. Béni sois-tu. Que nos églises dans cette région de Mulhouse, de Guebwiller, puissent brûler pour toi, puissent être une flamme, une bonne odeur de toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons toujours revenir à toi. Comme ce fils cadet, il est revenu vers son père. Nous pouvons venir à toi et tu nous accueilles encore ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de bénir cette église de Mulhouse, et que le témoignage dans cette ville, dans cette région, puisse être vécu, partagé, proclamé. Gloire à toi, Seigneur. Amen.